Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bon vendredi midi à tous et à toutes. Bienvenue à un autre épisode de Ciné Histoire. Aujourd'hui à l'émission, un gros programme quand même. Quelques personnes vont nous rendre visite, notamment Maxime Bonneville qui va venir nous parler des princesses un peu plus tard à l'émission et de l'évolution, je crois, des représentations de ces princesses. On a également notre collaborateur là, Maxence Gagné qui va venir nous parler, faire un petit tour d'horizon en fait du dernier Festival du Nouveau Cinéma là, qui avait lieu début octobre. Donc, il va nous présenter trois films phares qui sont à garder un peu sous votre loupe. Et on aura également à l'émission une entrevue avec la réalisatrice Océane Roux qui présente en fait son documentaire Choix de famille dans le cadre de Doc Humanité le samedi 2 novembre 2024 sur Ici Télé et sur ici-tout.tv. Donc on va pouvoir s'entretenir avec elle à 12h15. Et puis voilà, on va parler aussi de quelques nouveautés qui prennent l'affiche, notamment une qui ne prend pas l'affiche ici à la Maison du cinéma, mais qui prend l'affiche à Montréal, mais qui est un film justement aussi à garder en tête. C'est le film Là d'où l'on vient de Myriam Jouber. Je vous en parlerai un petit peu, mais Myriam Jouber, en fait, elle adapte en format long-métrage le court-métrage qui s'est rendu jusqu'aux Oscars là, en 2018, le court-métrage Brotherhood. Je vais vous en parler dans quelques instants. Juste le temps de faire un petit tour d'horizon justement des nouveautés qui prennent l'affiche ici à la Maison du cinéma. Il y a le film Frères, notamment, que je n'ai pas eu la chance de voir, mais avec Mathieu Kassovitz qui prend l'affiche, un film assez sérieux, en fait, qui nous ramène à la France des années 40 et une histoire, en fait, fraternelle entre deux petits garçons de 5 ans et 7 ans qui sont abandonnés à leur mère, et qui s'enfuient dans la forêt. Ils vont y survivre pendant 7 années et tisser un lien qui les unira à jamais. Des décennies plus tard, deux frères quittent tout pour se retrouver. Mais le passé et les secrets les rattrapent de même, même à l'autre bout du monde. C'est Yvan Attal et Mathieu Kassovitz qui jouent ces deux frères-là. C'est une réalisation de Olivier Cassas. Donc, ça prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma. Un film familial, Hit Pig également, qui prend son affiche. Et le nouveau long-métrage de Robert Zemeckis, là, qu'on connaît notamment pour avoir fait les Back to the Future, pour avoir fait Forrest Gump, d'autres mal-aimés aussi depuis le début des années 2000, malheureusement, de Polar Express, Beowulf. Il arrive avec un nouveau high concept, si on veut, ou un concept technologique ici, avec le film Here ou Ici, en français, qui met en vedette, on retrouve en fait le couple de Forrest Gump formé de Tom Hanks et de Robin Wright. Donc, on les retrouve ici. Et puis, le concept est assez original, c'est peut-être la meilleure chose finalement du film, là, selon les échos que j'en ai. On suit en fait un couple à travers une trentaine ou une quarantaine d'années. C'est un plan fixe dans leur salon et on voit l'évolution de ce couple-là et puis de leur famille. Voilà, les échos que j'en ai, c'est que évidemment, comme on sait, Tom Hanks et Robin Wright, ils sont rendus relativement âgés. Donc, il y a du de-aging là-dedans qui est plus ou moins réussi. Il y a des propos conservateurs aussi qui passent moyennement bien, apparemment. Je ne l'ai pas vu encore une fois, là, mais c'est les échos que j'en tire. Et puis, que le concept n'est pas exploité peut-être à sa meilleure formule. Apparemment que dans ce type de concept-là, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de hors-champ ou de l'action qui se passe dans d'autres scènes pendant qu'on est en train de voir autre chose. Mais non, ça a l'air qu'on voit pas vraiment là. C'est vraiment, toute l'action se passe un peu comme au théâtre, je sais pas trop, dans cette pièce-là. Et puis, c'est assez statique. On peut s'attendre à ce que ce soit statique, mais ça l'est peut-être trop au vu justement de, je sais pas, de la du peu de richesse du scénario et des situations. Donc, le concept m'intrigue quand même, puis je sais pas si je vais faire l'effort d'aller voir au cinéma nécessairement, mais sur une plateforme de streaming, pourquoi pas. Mais Robert Zemeckis n'est pas sur une très bonne lancée là, dans les derniers temps. Bon, il avait fait Allied avec Brad Pitt et Marion Cotillard qui n'avait pas beaucoup marché. Il avait fait Flight, je crois, un film bizarre sur l'aviation avec Denzel Washington. C'est ça, il essaie... je sais pas, peut-être de retrouver le panache d'antan et peut-être en recollaborant justement avec Tom Hanks et Robin Wright, mais la sauce ne pogne pas malheureusement. Mais c'est ça, il faut toujours aller voir le film pour en tirer sa propre opinion. Je vais vous parler justement, il y a aussi Venom, je crois, est-ce que c'était cette semaine ou la semaine dernière qui est sorti? Je sais pas trop, mais bon, il est sorti dans la plus totale indifférence, là, comme on peut s'y douter. C'est une franchise qui, pour une raison qui m'échappe, fait toujours beaucoup d'argent, mais est pourtant décrié comme une des pires franchises de Marvel, avec des gros guillemets, là, puisque c'est une coproduction avec Sony. Donc, c'est ça. Il n'y a pas eu une tonne de promos faites pour Venom, et puis ça va se ressentir probablement dans son box-office. Sinon, le film dont je voulais vous parler, moi, aujourd'hui, c'est Là d'où l'on vient, justement, de Myriam Jouba, qui... s'intéresse à la réalisatrice est franco-tunisienne et puis elle reprend justement les grandes lignes de son court-métrage de 2018 et on suit essentiellement l'histoire d'une mère qui voit deux de ses fils, fils les plus âgés, quitter pour rejoindre l'État islamique, pour rejoindre Daesh, en fait. Et puis, elle reste donc à la maison avec son mari et son plus jeune fils. Et puis, elle vit un peu le deuil de tout ça jusqu'à temps que l'un des deux revienne à la maison et annonce le décès de son de l'autre frère, en fait, de l'autre fils de la mère qu'on suit. Et il revient pas seul, en fait, il revient avec une femme voilée et qui est enceinte. Et puis donc là, il y a toute cette aura de mysticisme-là, un peu. Si vous aviez vu le court-métrage d'origine, on était beaucoup dans la contemplation, beaucoup dans justement les gros plans, les contrastes entre les décors, les paysages qui nous sont présentés et l'espèce de sentiment un peu castrant ou l'environnement un peu castrant de la maison où se déroule là, 80% de l'action, disons. Je dirais que le portage au long métrage était peut-être pas... Je comprends pourquoi il a été fait. C'est probablement parce que c'est plus facile d'avoir une belle vitrine quand on sort un film au cinéma que quand on le fait... quand on sort un court-métrage. Et donc, je comprends d'avoir voulu porter cette histoire-là. C'est pas le premier film à le faire. Whiplash, par exemple, est un très bon exemple. C'est un court-métrage à la base. Il a été primé, donc ça a permis de rassembler de l'argent pour faire un long-métrage. Puis, je crois que dans la forme, ça se tenait ou ça se portait bien comme un long-métrage. Ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une surabondance de contemplation qui ralentit l'histoire ou qui... n'ajoute pas nécessairement de la profondeur et plus des longueurs. Je sais pas trop. Je crois qu'en tant que court-métrage, puis c'était quand même un court-métrage, là, à mon souvenir, assez long, là, une quarantaine de minutes, 40-45 minutes. Ce qui fait que là, on fait même un petit peu plus que doubler sa longueur sans rajouter beaucoup de trames narratives. C'est vraiment plus dans les non-dits puis dans les petits détails des plans qui sont filmés à très, très, très gros plans. C'est ça. Ça se prête peut-être un peu moins. Cela dit, la nature artistique du projet est vraiment intéressante. La thématique aussi, là, c'est toujours d'actualité, que ce soit en 2018 ou aujourd'hui. C'est ça. Globalement, j'ai bien aimé l'expérience, somme toute, mais je crois que ça pourra en rebuter quand même plusieurs de par justement son impression d'avoir des longueurs ou plutôt... Le peu de renouvellement des thématiques ou des émotions que les personnages vivent. C'est ça, très très beau film. J'espère qu'il va prendre l'affiche à la Maison du cinéma prochainement. Il ne l'est pas pour l'instant, mais il le sera, du côté de Montréal. Donc c'était Là d'où l'on vient de Myriam Jouber. On va aller en pause publicitaire, nous, de notre côté. Puis au retour, on va parler à Océane Roux de son nouveau film, en fait. Donc, Choix de famille. Donc, restez des nôtres. Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son, la réalisation, le montage et la direction photo. Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis je rejoins au bout du fil Océane Roux pour parler de son nouveau documentaire Choix de famille. Salut Océane, ça va bien?
Oui, merci.
D'abord, félicitations pour ce documentaire qui va être disponible en fait dès demain sur tout.tv et qui va jouer aussi à la première chaîne ICI Télé. Un documentaire dans lequel tu re-questionne ou revisite en fait la parentalité et son évolution à l'ère actuelle. Donc, tu as plusieurs protagonistes, entre guillemets, qui vivent justement la parentalité de façon différente, que ce soit de la solo-parentalité, des couples homosexuels qui, évidemment, ne peuvent pas faire d'enfants par eux-mêmes, une jeune fille qui ne veut pas avoir d'enfants. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces questionnements-là sur la parentalité et puis sur ces voies alternatives?
Moi, je me posais des questions là sur mon propre désir de famille, donc j'ai décidé de me plonger dans le sujet. Puis c'est ça, là, à travers différentes discussions, j'en suis venue à voir différents modèles de famille, puis à voir que dans notre société, je pense que d'un point de vue des valeurs, on accepte bien là les différents modèles, ou du moins il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Puis maintenant, c'est peut-être plus d'un point de vue administratif, légal, financier, qui reste du chemin à faire. Donc, je voulais donner la parole là à ces gens-là pour qu'ils puissent dénoncer peut-être un peu ces problèmes-là, mais aussi pour peut-être là inspirer d'autres familles en montrant là différentes avenues.
Ça peut en inspirer certains, effectivement. Ça pourrait peut-être en décourager d'autres, justement, sur le point de vue administratif dont tu fais partie, dont tu as fait mention, pardon. L'aspect, évidemment, mais moi, ce qui m'a le plus choqué, peut-être, dans toutes ces trames-là, c'est peut-être, justement, le moyen de contraception, son nom m'échappe, là, mais de la jeune fille qui veut, justement...
Ouais.
Oui, exactement, qui veut, justement, faire une ligature des trompes, qui est un moyen de contraception, évidemment, non réversible, et qui se bute à tout à la médecine, pas nécessairement à la médecine moderne, mais justement à l'administration et puis au fait que dans le système de santé québécois, avant l'âge de 35 ans, c'est mal vu de le faire ou même, c'est pas interdit, mais c'est très peu courant. Comment est-ce que tu es tombé justement sur son parcours de vie? Parce qu'elle n'est pas la seule à vivre ça non plus. Comment tu es tombé sur elle? Puis comment tu as approché justement sa trame à elle?
C'est ça, dans le fond, je trouvais ça là pertinent de parler de quelqu'un qui veut pas d'enfants en contraste avec ceux qui en veulent, parce que dans les deux cas de figure, c'est des désirs qui sont viscérales. C'est ça, Eliane, je l'ai rencontrée à travers les réseaux sociaux. Donc, la majorité des gens du documentaire, c'est à travers des groupes Facebook que je suis entrée en contact avec eux. C'est vraiment un lieu où les gens peuvent échanger, poser des questions avec des familles qui leur ressemblent. C'est avec ce moyen-là que j'ai pu entrer en contact avec eux. Eliane, elle avait déjà participé là, à des petites capsules vidéo où elle parlait là, de son choix de ne pas avoir d'enfant. Donc, avec le documentaire, on a pu approfondir un peu plus son point de vue puis son parcours, dans le fond.
Sinon, un autre sujet tabou, évidemment, c'est le concept de mère porteuse. Je dis tabou, en fait, c'est juste plus ou moins accepté. Là, je me souviens plus trop, on est rendu où dans le processus légal de la chose. Tu l'abordes un petit peu à quel point en Ontario, c'est plus facilitant justement qu'au Québec. Est-ce que c'est interdit cette pratique-là au Québec ou pas vraiment? Ou...
Entre le tournage documentaire puis sa sortie, il y a eu du chemin qui a été fait là, au niveau des lois au Québec concernant les femmes porteuses. Mm-hmm. Au moment du documentaire, là, c'était pas reconnu du tout. Et aujourd'hui, ça l'est. Okay. C'est reconnu. Par contre, on n'a aucun filet qui encadre tout ça. La loi reste beaucoup plus ouverte en Ontario. Il y a une des questions importantes, c'est la reconnaissance des deux pères. dans le cas du moins du documentaire. Puis avec la nouvelle loi, c'est quand même pas possible dès la naissance de l'enfant qu'il soit reconnu comme ayant ses deux pères. Donc ça reste là un problème dans la loi au Québec. Il y a du chemin qui a été fait, ça on le salue, mais c'est pas parfait.
Non, c'est ça. Là où il y a peut-être du chemin à faire aussi, c'est sur cette troisième trame là, où on suit une femme qui essaie justement d'avoir un enfant par insémination artificielle et puis qui se bute un peu à une date d'expiration ou à une limite en fait du financement de l'État pour ce type de pratique-là, une limite qui est fixée arbitrairement là, ou pas, là, je suis pas médecin non plus, mais qui est fixée à 41 ans, je crois. Est-ce que... J'ose espérer, est-ce qu'il y a eu du chemin qui a été fait aussi entre le tournage et aujourd'hui à ce niveau-là ou si c'est toujours justement capé à une quarantaine d'années? Est-ce que c'est un peu étrange comme concept d'autoriser cette pratique-là, mais de ne pas aller au-delà d'une certaine tranche d'âge alors qu'on sait qu'il y a des femmes qui peuvent avoir des enfants jusqu'à justement 45 ans? Est-ce qu'il y a eu du chemin qui a été fait à ce niveau-là ou pas?
Non, de ce côté-là, la loi reste la même. Ça n'a pas changé. Donc, c'est à partir de, comme vous l'avez bien dit, 41 ans moins un jour, on n'est plus admissible au programme de remboursement du gouvernement qui aide les couples infertiles et les femmes solo à avoir recours là, à la procréation assistée. Donc, de ce côté-là, ça n'a pas bougé. C'est très confrontant là pour ces femmes-là parce que c'est comme ça met un peu une date de péremption d'un point de vue légal quand en fait on est appelé à avoir des enfants là de beaucoup plus tard aujourd'hui pour toutes sortes de raisons mais 41 ans c'est pas l'âge à laquelle on tombe immédiatement en ménopause là. Donc c'est confrontant là de se faire dire par une loi que on ne peut plus essayer d'avoir des enfants ou en fait on peut mais ça coûte excessivement cher.
Ouais, mais c'est ça un peu pas le problème mais tu sais je sais que c'est pas nécessairement t'approfondis pas nécessairement cet angle-là mais est-ce que ces dates-là ou ces barèmes-là qu'on met pour ces lois-là est-ce que ça vient d'un fondement scientifique ou est-ce que ça vient purement d'un fondement politique du parti qui était au pouvoir à l'époque où ces lois-là ont été mises? Comment est-ce qu'on édicte ces barèmes-là puis comment est-ce qu'ils sont amenés justement à évoluer? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir qu'on voit ça évoluer un jour?
Cette loi-là, elle a été mise pour établir une limite à ce programme-là. Après ça, l'âge ça a été établi parce que dans la quarantaine, la fertilité des femmes va drastiquement chuter. Donc, ça a été établi comme ça parce qu'ils disent que biologiquement, il y a moins de chances. Donc, ils sont moins peut-être ouverts à participer à des projets qui ont moins de chances de fonctionner. Après ça, le 41 ans précisément, il est un peu arbitraire. Là, il n'y a pas d'études qui établit quoi que ce soit à l'âge de 41 ans pile. Donc voilà, je pense que ça dépend. Il y aurait espoir que ça change. Je pense que dans les dernières années, cette loi-là a été appelée à être modifiée de toutes sortes de façons. Il y a un nombre d'insémination artificielle qui sont offertes, de fécondation in vitro. Ça, c'est des chiffres qui ont été changés là, au travers des années. Donc, je pense que il y a une possibilité que ça change, mais pour l'instant, on ne sent pas une grande ouverture là, de ce côté-là.
À travers toutes ces trames-là aussi, on voit une succession de témoignages de différentes personnes qui ont vécu différentes situations. Un couple avec un enfant biologique, un enfant adopté, d'autres qui ne veulent pas d'enfants non plus. Est-ce que la parentalité... tu l'as peut-être mentionné là, au début de l'entrevue, là, mais est-ce qu'il y a encore un tabou, justement, tu crois, de société sur les façons... sur la famille idéale, ou tu crois que ça s'estompe quand même un peu ces tabous-là de la famille classique homme-femme, deux enfants, puis c'est ça. Est-ce qu'il y a encore un tabou, est-ce qu'il y a encore un stigmate que tu sens que les personnes que tu as interviewées vivent au quotidien ou non?
Je sens que ça s'estompe, donc je sens qu'il y en a de moins en moins. Par contre, il y a quand même certaines décisions qui vont être confrontantes pour certains. Je pense que le cas qui fait le plus réagir, c'est celui d'Eliane, donc qui ne souhaite pas avoir d'enfant. Je pense que ça, on a encore la difficulté à l'accepter. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'importance qui est accordée au fait que le corps de la femme est là pour reproduire. Je pense que c'est ancré aussi particulièrement au Québec avec toute notre histoire de colonisation, de notre lien avec la religion. Donc, c'est ça. Je pense que ça, c'est peut-être plus... C'est encore confrontant. Eliane, particulièrement, là, doit constamment se justifier par rapport à son choix de ne pas vouloir d'enfant. Pourtant, on questionne pas, ben, du moins pas autant, les gens qui veulent des enfants. Quand ben, ça a un grand impact, en fait, avoir un enfant. Donc, ça se questionner, là, à se dire pourquoi est-ce que ça choque autant là, encore aujourd'hui.
Le documentaire va être disponible justement sur ICI-tout.tv et va être diffusé à 22h30 ce samedi sur ICI Télé. Il est dans le cadre aussi présenté dans le cadre de Doc Humanité. Océane, merci beaucoup d'avoir pris le temps, premièrement, de faire ce documentaire-là et merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Je rappelle aux auditeurs et auditrices, c'est le documentaire Choix de famille. Merci beaucoup, Océane.
Merci de m'avoir reçu.
Merci.
Un jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script. Et dans le scénario, il n'y a pas du tout de trajet.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et on accueille le couple préféré des cinéphiles.
Oh.
Ouais. Maxime Bonneville, Alex T. Musique, comment allez-vous?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va super bien. Justement, je trouvais qu'on n'avait pas fait assez de radio aujourd'hui ensemble.
Mais non.
Je me suis dit, ben, tu t'es dit, on va venir en refaire ici. Puis tu fais un petit. T'as préparé une autre chronique, justement, pour peut-être élargir nos horizons.
Ben oui, moi, j'avais le goût de vous parler un peu là, des princesses, en fait. Parce que moi, j'aime beaucoup les films de Disney. Toi, t'as des enfants qui probablement regardent des petits films de bonhommes.
Ils sont pas supposés.
Non!
Une heure maximum de télé par jour, selon le guide
canadien. C'est le hockey.
C'est souvent le hockey.
Bon, OK. Fait que c'est ça, j'avais envie de vous parler un peu là, de l'évolution des princesses, parce qu'on a fait du chemin hein, depuis la première princesse. Quiz, les gars, qui était la première princesse?
Oh, c'est-tu Blanche-Neige?
Oui.
Disney. Hein.
Ouais, ben non.
Ben non, mais c'est parce que...
Non, pas la cour roman.
Ouais. Ben ouais, probablement Blanche-Neige. Ouais.
Oui, bonne réponse. C'est Blanche-Neige et les sept nains en 1937 que le film est sorti. Ouais. Donc, effectivement, là, on a fait vraiment un long bout de chemin depuis Les petites femmes soumises des années 30.
L'avez-vous déjà vu, ce film-là?
Le premier?
Ouais.
Oui, c'est...
Je pense pas que je l'ai déjà vu, moi.
Non.
Ah, le premier...
Le OG Blanche-Neige.
Ah, ben, je sais pas, il y en avait un quand j'étais jeune.
Ouais, ouais, ça doit être lui. Ouais. Ils n'ont pas fait, un remake animé.
Genre Avatar.
Ouais, c'est ça.
Motion picture. Ouais.
Donc, c'est ça. En faisant mes recherches, j'ai vu là, qu'en fait, les princesses sont séparées en trois grandes générations. La première, entre 1937 et 1959, c'est la Classic Era. Là-dedans, on retrouve Blanche-Neige, qui est la première, Cendrillon et Aurore.
Enfant
Martin. Ouais, c'est ça.
Non, Aurore, c'est celle-là, elle se pique là, le doigt sur...
Ah, Belle au bois dormant.
Oui, c'est ça. Mais son nom, c'est Aurore. Elle ne s'appelle pas la Belle au bois dormant.
Non, c'est ça. Ouais.
Donc, c'est ça.
C'est pas un vrai nom.
Donc, ces femmes-là, en fait, ces princesses-là, comment ils étaient représentées? Bien, c'est sûr qu'ils étaient représentées par des femmes de leur époque. Hein. C'était des femmes qui étaient belles, minces, soumises surtout.
Pour des princesses, ils faisaient beaucoup de lavage.
Oui. Mais tu sais, c'était vraiment là, on représentait ces femmes-là comme les hommes voulaient que leurs femmes soient à l'époque. Et leur histoire, en fait, était vraiment centrée sur l'histoire d'amour et sur un prince charmant qui va venir, donc ben les sauver. Merci beaucoup, les hommes.
Ouais. Les trois finissent... Ah non, Cendrillon, j'ai pas vu tant de films Disney. Mais il y en a deux sur toi qui finissent endormis jusqu'à temps que quelqu'un arrive. Là.
Oui.
Fait que, hein, ça,
un peu gênant.
Sont-tu film quand ils dorment.
Ouais, c'est ça. On va les frencher pendant qu'ils dorment, voir.
Ouais, ben c'est ça. Donc, c'est ça. La première génération, là, c'est la génération qui fait le plus dur, là, selon moi. Ouais. Mais en fait...
Et pourtant, c'est les plus iconiques.
Là, oui, ben c'est ça. Tout le monde les connaît. Là. Si on parle de Blanche-Neige, il n'y a pas personne qui ne sait pas qui est Blanche-Neige. Mais c'est ça. Leur histoire est un peu... C'est un peu gênant, honnêtement. Ouais. Ensuite, on a la deuxième génération.
C'était quoi avec Maleficent, là, avec... quoi le nom de l'actrice?
Angelina Jolie.
Ouais, c'est ça. Là, il y a Blanche-Neige là-dedans.
Non,
c'est pas Blanche-Neige. C'est pas Sleeping Beauty, justement? C'est pas elle?
Non, c'est pas... Mais il me semble que c'est pas... Ça n'a pas rapport.
Okay.
Ah, OK. Je pensais que c'était Blanche-Neige. J'étais pour te demander, est-ce qu'ils ont un petit peu amélioré?
Non, c'est pas la, c'est pas la même.
Sur une autre chronique.
Ouais,
on en reparlera. Ça m'amène à la deuxième génération. Entre 1989 et 1998, la Renaissance Era.
Attends, fait qu'il y a eu aucune princesse entre 59 et 89?
Ben non, ça a l'air que non. C'est vraiment bizarre,
c'était
mais
des
non.
C'était du c'est Mickey Mouse.
Dans cette catégorie-là, on retrouve Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas et Mulan. Déjà là, avez-vous vu ces films-là?
J'ai vu Mulan.
Ariel.
J'ai vu Belle, Sleeping Beauty.
Ouais.
Ariel, non, mais je l'ai mis l'autre fois à TV, puis mon jeune n'était pas très intéressé.
Okay. Fait que, bon.
Mais il me manque vraiment, j'ai un blind side là, de films de Disney. Là,
ah oui?
Ouais. J'ai vu Les Racistes, mais j'ai pas vu les autres.
Bon, c'est mieux que rien.
Ouais, ouais.
Mais en tout cas, quand on a regardé les films, on sait que ces princesses-là, c'est la génération où les princesses ils vont s'émanciper un petit peu plus. Ça va encore être des belles petites filles. Mince, mais ils vont être davantage maîtresses de leur vie. Tout ce qu'elles ont en commun, ces femmes-là, en fait, c'est qu'elles sont dans une situation dans laquelle elles ne sont pas confortables et elles veulent s'en sortir. Et elles n'ont pas besoin d'un homme. La plupart ont une histoire d'amour dans leur histoire.
Fait qu'ils ont un love interest, mais c'est pas les hommes qui les sauvent.
C'est ça. Okay. Donc,
même
ils vont
pas Pocahontas? Non?
Je connais pas. Ben, la vraie histoire de Pocahontas,
ouais,
c'est que le monsieur, c'est un peu un pédophile, puis qu'il l'a un peu volé à son peuple. Là, fait moi, j'ai pas vu ce film-là.
Ils ont pas bien rendu ça à l'écran. <Non. rire>
Ça chantait pas tant que ça. Ouais.
Donc, c'est ça. Ces princesses-là, ils veulent changer leur destin, sauf pour Ariel, là, qui va tomber en amour et tout lâcher pour être avec cet homme-là. Bad Ariel.
Ouais.
Donc, c'est ça. Et aussi, une différence avec ces princesses-là, c'est que pour la première fois, les princes qu'ils vont rencontrer, ils ont des noms. Les princes, ils vont être nommés, donc ça va pas être un homme, ça va être une personne. Donc, c'est quand même un petit peu moins pire là, que juste un homme.
Puis les
en
hommes,
général.
Ils se parlent-tu de d'autres choses que la princesse?
C'est quoi l'indice inverse à l'autre? Là.
Ben, je l'ai pas écrit dans ma chronique là, parce que sinon, ça allait être trop long, mais dans l'article que j'ai pris pour me baser pour ma chronique, il y a des gens qui ont fait des études là, à quel point les femmes parlent même dans ces films-là. Et dans, mettons, là, La Reine des Neiges, là, je pense que les femmes ont 30% de texte comparé aux personnages masculins.
Je peux même pas te nommer un personnage masculin.
La moitié du cast, c'est comme un chevreuil. Puis...
Ouais. Ben, c'est tous des gars.
Ouais, ben c'est
des chevreuils gars.
Un chevreuil gars.
Un bonhomme de neige. Il n'y a pas de madame de neige.
Bref.
Ouais.
Okay, on enchaîne.
Donc, dans la deuxième génération là, de ces princesses-là, il y a une émancipation de la femme et elles n'ont pas besoin d'un homme. Ça va faire partie de leur histoire, mais ça ne va pas être le principal. Et aussi, ce qui va marquer cette génération-là, c'est que ça va être la première fois qu'on va voir des princesses qui ne sont pas blanches. Pocahontas, là, si je ne me trompe pas, c'est une femme des Premières Nations.
Non, ouais.
Et Mulan, elle est...
Asiatique. Chinoise, je pense.
Oui, ouais, mais il me semble que c'est chinoise.
Ouais. On ne fait pas d'amalgame, là, mais c'est vraiment la Chine.
Oui, c'est ça.
Elle n'est pas mexicaine.
Dans la troisième génération, après ça, c'est le New Age Era.
Ouais.
À partir de 2009, c'est la génération actuelle là, dans laquelle on se trouve. On a Tiana, Réponse, Mérida, Elsa et Moana. Moana qui, dans les autres pays, elle s'appelle Vaiana. Je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, j'ai trouvé ça.
Je dis moins bien.
C'est peut-être que ça ressemble à Mona. Je sais pas.
Ben, en fait, là, c'est parce que je pense qu'il y a une porn star qui s'appelle Moana.
Ah.
Fait que là, ils ont changé ça.
Moana
mais...
de Grenoble.
Ça serait bon, ça.
Ouais.
Mais c'est ça, pour cette génération-là, les princesses vont être pour la première fois définies par autre chose que par leur beauté. Tiana est créative, Raiponce est aventureuse, Mérida indépendante, Elsa magique et Moana courageuse.
Rappelle-nous les films de ça, là. Il y en a une couple que je connais pas de nom.
Tiana, c'est la princesse et la grenouille.
OK, ouais, hey, celui-là, il est passé dans le bas, je pense qu'il est sorti.
Ouais, ça n'a pas été un des plus populaires. Ouais. Là. Réponse, c'est celle qui a les longs cheveux. Ouais. Ouais, Mérida, c'est... Ouais, Mérida, c'est rebelle. C'est ça. Ouais.
Moi aussi, j'ai commencé, mais mon jeune n'a pas, pas accroché. Non.
C'est quoi qu'il aime?
Le hockey. Comme ça devrait être. Non, mais il aime beaucoup Cars, malheureusement, parce que c'est pas très bon comme film. Puis il aime beaucoup Ice Age.
Ah, bon! Parfait. Correct.
C'est bon, Ice Age.
C'est bon.
Hein, même moi, je me suis endormi sur le film, puis lui, il le regarde au complet. Fait que, ouais. Ouais, ouais. Puis c'est qui l'autre? Ben, Moana, c'est qui?
Elsa, dans La Reine des Neiges, puis Moana, c'est Moana.
Ouais,
c'est
bon. Puis son talent, c'est d'être magique.
Ben, c'est parce que j'ai pas trouvé d'autres qualifications. Ben, elle est comme indépendante.
Ouais,
elle,
c'est ça.
C'est une strong, independent woman qui se sauve de son royaume.
Elle parle pas beaucoup, mais...
C'est vrai, elle parle vraiment
elle
pas beaucoup.
Elle fait de l'action. Dans l'action.
C'est, le film, c'est La Reine des Neiges, c'est elle, mais elle parle pas tant que ça.
Ouais. Non, elle se noie presque.
Ah ouais?
Fun fact.
Elle se noie?
Ouais, quand il y a le cheval d'eau, là... Dans le 2.
Dans le 2, ah, OK.
OK, c'est pas intéressant ce que tu dis. ces princesses-là, qu'est-ce qu'ils ont, en fait, qui les représente, ben, c'est qu'ils vont avoir des rêves, ils ont des buts, et pour la plupart, ils ont même pas d'histoire d'amour dans leur film, où, en fait, les histoires d'amour arrivent un peu plus normalement, comme dans la vraie vie. Tu sais, par exemple, Anna, là, qui tombe en amour avec Hans, ils vont se côtoyer, ils s'aiment pas bien au début, ils se taquinent, puis finalement, ils finissent par se marier. Fait que ça va plus ressembler là, à la vraie vie qu'un beau prince charmant qui vient de sauver.
Ouais.
Donc, c'est ça, l'évolution là, des rôles des princesses, c'est vraiment beau. Là. Il y a eu une belle évolution, mais c'est toujours pas l'idéal. Là.
Qu'est-ce qui reste à faire?
Ben là, premièrement, il y a la diversité corporelle qui est un peu épouvantable. Là. Toutes les princesses, c'est des petits...
Ouais. Faut que ça rentre dans la robe.
C'est ça.
Non, mais... Ouais, mais...
Il y a la diversité corporelle.
Il y en a un peu, mais tu sais, dans d'autres films, tu sais, pas de princesses, mettons,
oui.
Là, tu sais, de Disney.
Ouais,
mais...
Ouais, tu sais, mettons, ouais. Dans... comment ça s'appelle le film, là? C'est un gros panda roux, là.
Red. Turning Red.
Ah, oh, Turning
je connais,
Red,
je
c'est
connais
ça.
Juste les films en anglais.
C'est ça. Mais, tu sais, dans ça, les personnages sont un peu plus normaux. Ouais. Là. Ils ont des shapes un peu plus normales. Ouais. Dans Cars aussi, tu sais, ils sont pas super minces, là. C'est quand même...
Dans Cars?
Large, là.
Oui, mais ils ont un bumper, mais comme... ils ont quatre roues motrices. Mais... Non, mais tu sais, mettons, dans Encanto aussi, là, c'est plus dans du Pixar, là, mais...
Oui, Encanto aussi sont un peu plus...
Mais tu sais...
Proportionnés.
Turning Red, il n'y a pas Moana de Grenoble qui joue là-dedans?
Je sais pas. Je l'ai pas vu. Il est dans mon blind side. Mais ouais. C'est ça. Il resterait le domaine de la princesse là, à hijack.
C'est ça. Puis tu sais, il y a la diversité sexuelle et de genre aussi qui est un peu push. Dans Turning Red aussi, par exemple, il y a un couple homosexuel. Dans Elements aussi.
Parce qu'ils veulent pas se faire bannir en Chine. C'est
ouais,
ça
mais c'est
ça.
Ça. Mais tu sais, dans Elements, le Adelphe du gars d'eau, c'est une personne non binaire qui est en couple avec une autre personne non binaire. Fait que, tu sais, on commence à y arriver là, tranquillement, pas vite. Mais la question que j'avais le goût de vous poser, les gars, est-ce que vous pensez que faut revoir les classiques? Tu sais, si on parle de Cendrillon, de Blanche-Neige, est-ce que.
Revoir. Ben, regarder ou les changer?
Les changer, parce que, tu sais, là, en 2023, on a eu La Petite Sirène qui était faite par une actrice noire. En 2025, on va avoir Blanche-Neige qui ne sera pas accompagnée des sept nains. Comment vous trouvez ça, vous autres?
Ben, moi, je me dis... Tu sais, on a assez de créativité pour faire des nouvelles... Tu sais, j'ai pas le... Je ressens pas le... Tu sais, c'est comme... Tu sais, la Bible, ils la refont pas, tu sais. Tu sais, ils la refont pas.
C'est une drôle de la nuit,
on mais... Non, mais dans le sens qu'on l'a...
Tu ris, mais ils ont sorti une nouvelle Bible il y a pas longtemps.
Non, mais...
T'en parlerai hors d'eau.
Tu sais, dans le sens que c'est de quoi qui est arrivé dans une autre époque, puis que... Tu sais, Tintin au Congo, ils ont pas fait un remake, là. Là, je suis arrêté de le vendre pas mal,
ouais. Ouais.
Je pense, c'est ça. Je pense que ça peut être... En tout cas, c'est mon tech, là. Ultimement, je m'en fous, là, mais comme... je dirais, crée-en des nouvelles au lieu de réadapter.
Ben, tu sais, moi, la question que j'avais le goût de poser, même, c'est est-ce qu'on a encore besoin de princesses, là? Tu sais, dans le sens... Ouais. Il me semble que c'est un concept un peu weird qui
ça existe plus de temps. Encore.
Ben non, ben tu sais, mettons, à part Elsa qui est une nouvelle, tu sais, les autres, ouais, elles sont princesses, là, mais.
Ouais, ben Moana n'est pas vraiment princesse, je pense.
C'est comme. C'est comme on étire un peu la limite de princesse, là. Mais tu sais, moi, je pense pas qu'il. Ben, dans le sens. Je crois qu'il faut pas oublier ce qui a été fait avant. Mm-hmm. J'ai étudié en histoire, fait que
ouais, c'est facile
à dire, mais je suis comme. Tu sais, il faut. Oui, peut-être contextualiser. Tu sais, à cette heure, quand tu écoutes des films un peu weird sur Disney+, ils te mettent un warning au début. Tu sais, ça peut être assez, je crois, mais tu sais, il faut pas l'oublier. Puis, tu sais, autant je comprends ton point de comme on est capable de penser ailleurs, autant, tu sais, c'est très ancré dans le cinéma de faire des remakes. Puis, tu sais, même dans le théâtre, tu sais, il y a toujours un nouveau Macbeth. Il y a toujours un nouveau affaire. Puis, ils sont toujours remis au goût du jour. Tu sais, ça me choque pas vraiment qu'ils essaient de mettre cette diversité-là. Tant que c'est pas pour faire du cash. Si ça vient d'un bon fond ou si ça vient d'une nécessité de faire « Hey, oui, guess, c'était weird, mais l'histoire de base est bonne. » Tu sais, ça va, mais tu sais, mettons, de caster juste des Noirs pour l'adaptation live-action de Lion King, c'est plus un capital politique puis de cash de faire comme « Checké, on vous laisse la place. » Je sais que c'est juste votre voix, là, mais comme on a juste pris des gens noirs. Tu sais, comme c'est un lion, c'est noir parce que c'est en Afrique. C'est ça. Fait que, tu sais, mettons, pour La Petite Sirène, je l'ai pas vu encore une fois, mais tu sais, là, c'est de l'eau, qu'elle soit noire, blanche, asiatique. Tu sais, on s'en fout un peu, sauf ceux qui se brusquent puis qui font des plaintes. Là. Mais tu sais, je pense que c'est bien de réactualiser parce que c'est ça. Sinon, on va juste tomber dans les mêmes tropes puis les mêmes situations puis on n'évoluera pas. Mais faut pas effacer ce qui s'est passé. Faut essayer de... C'est ça, d'être au goût du jour.
Mais tu sais, pas effacer, mais tu sais, toi, mettons, est-ce que tu montrerais les premiers, tu sais, Cendrillon, les premiers à ta fille, mettons,
Puis tu sais, j'ose espérer qu'elle va catcher que ça n'a pas de bon sens. Si elle ne catche pas, je peux y montrer.
Elle n'a pas 4 ans, même pas 1 an.
Ouais, mais non, je sais, mais tu peux l'écouter à 8 ans. Tu n'as pas arrêté à 4 ans d'écouter des films de princesse. À un moment donné, tu vas comme cacher. C'est bizarre ça. Pourquoi est-ce que c'est ça. Pourquoi est-ce qu'elle est plate?
Oui, ben parce que moi aussi, je trouvais ça important quand même de continuer à les montrer, ces films-là, parce que, tu sais, la base du féminisme, là, c'est que les femmes, ben, ils peuvent être donc bien ce qu'ils veulent, puis on s'en torche de ce qu'ils ont envie d'être, là. Ouais. Fait que, tu sais, reste que le modèle de la femme gentille, douce et à la maison, c'est un modèle qui existe encore. C'est encore correct. Si c'est ça qu'elle veut, ben qu'elle le fasse. C'est juste que je pense que c'est important de le montrer parmi X, Y, Z possibilités.
Tu prends des notes, là?
Pourvoyeur.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est très intéressant. Puis, tu sais, là, il y a eu des débats. Tu sais, il y en a beaucoup. Ça suscite beaucoup de débats à chaque fois qu'ils montent une nouvelle adaptation. Puis qu'on fait comme, ah, c'est bizarre. Ils ont fait ça pour les subventions. Mais, comme, peut-être.
Ouais.
C'est important de se poser la question. Mais, tu sais, ultimement, qu'est-ce que ça change?
On s'en fout.
Ça. Tu sais, fait que.
Ben, ce que souvent, c'est parce que, comme tu dis, c'est que ça vient avec, on dirait que le but, c'est le capital politique, puis que ça fait des films de merde, là.
C'est parce que, tu sais, mettons, pour La Petite Sirène, on a. S'ils ont passé 100 castings, puis que la meilleure, c'était elle, puis que ça donne qu'elle est noire, ben, tant mieux, puis ça change rien. Mais s'ils ont choisi elle parce qu'elle était noire, moi, je pense que c'est là où on se dit, ouais, ben là, franchement, là.
Ouais.
Ouais.
Mais c'est ça, puis tu sais, en tout cas, c'est dur parce que là, ça concerne les enfants. Puis, dans ce temps-là, le monde sont comme, faut protéger nos enfants. Puis, tu sais, ils sont jamais à maison.
C'est ça.
C'est ça. Faut en prendre puis en laisser. Mais, tu sais, ultimement, je pense qu'il faut juste. C'est ça. Je pense que c'est important de réactualiser, honnêtement. Puis qu'il faut continuer à le faire. Si ça a un but, tu sais, je serais down pour une suite à. Je sais pas, Mulan. Ben, il y a eu une suite à Mulan, là, mais tu sais, faire des suites. Plus des suites que des remakes, là, parce que c'est la même histoire. Là, mais comme. Tu sais, en tout cas, c'est ça. Moi, je suis pas contre l'idée. Mais c'est ça. Tant que c'est pas trop fait, tant qu'on sent pas que c'est un homme blanc derrière qui est comme, yes, on va prendre leur argent à eux autres, s'ils vont venir voir le film. Parce que le sentiment que j'avais un peu avec Black Panther, notamment.
Tu veux-tu nous parler de ton projet de cégep, là, qui parlait un petit peu de ça?
Non, ben, ça parlait pas tant de ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est bon. Écoute, merci de nous avoir fait ce petit tour d'horizon-là. C'est quel ton préféré, vite, dans tout ça? Quelle est ta princesse préférée?
Ma préférée.
Et mieux de ne pas être née avant 1959.
Je pense que c'est Moana.
Ah,
bon.
Ouais.
Je la trouve haute.
Ça va être, il va y avoir un live action de ça là, bientôt aussi.
Oui, avec The Rock.
Ouais, oh, The Rock bon. Qui joue Moana. Fait qu'on a évolué, on voit. Les princesses ont le droit aussi d'être des hommes. Ben, merci ouais, Max. On s'en va pause publicitaire et on revient dans quelques instants.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis maintenant, ben, je rejoins mon collaborateur Maxence Gagné. Salut Maxence, ça va bien?
Oui, très bien. Et toi?
Oui, ça va super bien, merci. J'avais hâte de cette chronique-là parce que ça fait un petit moment déjà que le FNC est terminé, mais toi, tu as eu un accès privilégié cette année, puis tu voulais revenir justement sur cette édition du Festival du Nouveau Cinéma-là. Comment t'as aimé ça d'entrée de jeu?
J'ai pas mal aimé ça. Moi, c'était seulement ma deuxième année. Cette fois-ci, c'est la première, mettons, où j'avais une accréditation. Et ben, ça m'a permis, mon objectif c'était de regarder des films qui sortiraient pas nécessairement au cinéma, comme on sait qu'Anora est déjà sortie au cinéma, Emilia Perez, ça sort ce vendredi au cinéma. Je voulais aller chercher un peu ailleurs, voir des films de différentes sélections, pas juste de la sélection officielle, puis en tout cas d'en profiter pour voir des films que peut-être que je verrai plus jamais. Après, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Là. On découvre aussi des nouveaux cinéastes. Là. Il y en a même une, dont, la première cinéaste dont je vais parler, c'était son premier film à vie. Donc, avant ça, okay. elle faisait des décors, dans le fond.
Ah oui? Ah ben c'est parfait. Écoute, c'est ça, il y avait très belle programmation. Tu en as mentionné quelques-uns là, de ces films-là. Il y avait aussi le très attendu Une langue universelle de Matthew Rankin, là, qui est la sélection du Canada aux Oscars. Je pense que tu l'as pas vu finalement.
Je ne l'ai pas vu, mais je pense que je sais pas ce qui s'est passé avec ça. Il y a eu des problèmes lors de la projection d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Le film a été reprojeté, je pense, le lendemain ou le surlendemain. Ouais. Donc, finalement, la production a eu lieu. La projection, pardon, a eu lieu. Mais donc, on va commencer justement avec ces films, justement, un peu plus champ gauche dont tu nous parlais. Tu veux nous parler d'abord de Human Hibernation.
Oui, ça, dans le fond, c'est un film de la sélection qui s'appelle Les Nouveaux Alchimistes. Donc, c'est une sélection qui est concentrée à des œuvres. On dirait plus expérimental, ou du moins, c'est comme un peu une sélection alternative à la sélection officielle, puis bien qu'il y a des œuvres quand même assez originales dans la sélection officielle, celles-là vont particulièrement essayer de jouer sur des codes des codes narratifs ou tout simplement comme des éliminés. Là. Ce film-là en particulier, The Human Hibernation, c'est, je dirais, pratiquement plus une expérience de pensée qu'un récit. La réalisatrice, elle s'imagine que pendant 3 mois, les humains hibernent, sont comme en état d'hibernation, puis elle veut savoir qu'est-ce que ça apporterait de différent à notre société. Puis c'est comme... Ça apporte une dimension... Pratiquement, des fois, on joue dans le terrain de la métaphysique, là, parce que... ils vont se dire, les personnages... que je sais pas, que mettons les étangs vont devenir pour eux potentiellement des passages vers d'autres mondes. C'est un film de science-fiction un peu, si on veut. Hein.
Ouais.
C'est ça, y a rien qui est, ça va pas introduire aucune technologie à laquelle on n'est pas habitué, mais juste d'avoir juste le fait que ces humains-là aient un nouveau regard sur notre monde à nous, ça amène toutes sortes de changements. À un moment donné, ils vont aussi regarder dans l'œil des vaches. Là. Ils ont comme pour eux, la vache, c'est plus important. Puis ils vont se dire peut-être que la vache, avec son œil, elle est capable de voir plus loin que nous. Parce que eux, ils voient, mettons, les reflets dans cet œil-là. Puis ils se disent que peut-être que ça, c'est tiré par les cheveux, mais peut-être que c'est parce que la vache voit plus loin qu'il y a des reflets, qu'il y a plus de couleurs dans son œil que dans le nôtre. Il y a des choses comme ça, mais des fois même la structure de la famille va s'en trouver chamboulée là, d'un été à un autre, les familles changent là. Des fois il y en a un qui dit cet été j'ai une sœur différente et j'ai une autre sœur, en tout cas des fois c'est vraiment la réalisatrice, elle essaie de voir jusqu'où elle peut pousser l'enveloppe pour jusqu'où est-ce que dans le fond j'ai l'impression qu'on peut apporter des changements au genre humain, tout en se disant qu'on tout en pouvant on peut encore s'identifier à ces humains là à se dire à est-ce qu'ils sont encore comme nous. Il y a aussi le fait que vu que les humains sont moins présents durant l'hiver, en fait pas présents du tout, les animaux reprennent un peu leurs droits. Fait qu'il y a comme un peu il y a une cohabitation. Des fois on voit des animaux habiter dans les maisons des humains, dans nos maisons à nous. C'est particulier, puis c'est un film que j'aimais, que j'ai aimé juste pour cette ambition là de voir de voir à quel point on peut chambouler les perceptions communément admises de ce que c'est un humain.
Ça a l'air très intéressant. La prémisse de base est très bonne. Est-ce que le ton est quand même comique ou pas?
Je dirais que c'est plutôt... c'est plus un film qui se prend un peu au sérieux. T'sais, on est peut-être dans le... On est un peu dans les réflexions, des fois, à la Tarkovsky. Tarkovsky, peut-être... on le sait, il va dans des réflexions philosophiques et tout. C'est pas exactement la même chose, dans le sens que... je pense... J'ai pas vu, ça c'est un péché que j'admets, j'ai pas vu Solaris ni Stalker, mais dans les autres films de Tarkovsky, il va dans la philosophie sans vraiment chambouler c'est quoi notre perception de l'être humain, mais on reste dans le même ton. Il y a des images pas mal oniriques, poétiques et tout. Là. C'est dans ce ton-là plutôt, je dirais. C'est pas une comédie. Ça se prend très au sérieux.
Ouais.
Contrairement aux autres films dont on va parler. Là.
Ouais. Ben justement, un deuxième film que tu as vu, Pépé, ça a un lien avec Pablo Escobar.
Ouais, c'est ça. Ben, pour faire l'histoire vite, Pablo Escobar, ben, on le connaît, là, c'est le caïd de la drogue en Colombie. Là, maintenant, il est décédé, mais à un moment donné, il était très, très important. Et il a fait importer 4 hippopotames d'Afrique. écologiquement, ça n'a pas prouvé être la décision la plus intelligente qu'il a fait, parce que maintenant ces hippopotames-là se sont reproduits, sont à peu près rendus une centaine, ils sont très difficiles à gérer, puis bon, c'est comme ça chamboule un peu la chaîne alimentaire là-bas. Pépé, d'où vient le titre du film, c'est un de ces hippopotames-là qui est décédé. Il a été tué par des chasseurs. Puis après ça, après sa mort, il va comme acquérir une propre voix à lui, comme un humain. Puis il va aller décrire... c'est particulier. Mais il va aller décrire sa vie. Dans un sens, le film va pas utiliser ça pour... anthropomorphiser l'hippopotame. T'sais, l'hippopotame, dans les flashbacks qu'on va avoir, il va agir comme n'importe quel animal, mais c'est après ça, c'est la voix qui décrit les actions qu'elle a fait comme dans une vie antérieure. C'est un peu des histoires de réincarnation, si on veut. Ça serait comme... pour donner c'est pas une voix comme on aurait, mettons, dans les films Beethoven ou dans Underdog. On n'est pas là. C'est la voix de l'hippopotame, au final, elle va être capable de porter des fois des commentaires politiques ou des commentaires environnementaux. Parce que je trouvais... la situation est tellement absurde que d'un côté, ça fait rire, mais de l'autre, ça fait réfléchir. Là. Il y a aussi toute une partie qui va un peu faire écho au film Jazz, plus vers la fin, quand ils vont vouloir chasser cet hippopotame-là. On voit que c'est pas juste une histoire de l'hippopotame, il mange des humains puis il coule des bateaux. Là, il y a une dimension où il faut qu'il aille voir, j'ai oublié les titres que ces gens-là portent, mais il faut qu'il aille voir des commissions environnementales, des commissions pour les droits des animaux, puis tout ça, c'est bien plus compliqué ça apporte une twist au film Jazz. Dans le film Jazz, c'est on fait un appel, on va aller chercher un pêcheur, on va se prendre un gros bateau, puis ça va fonctionner. C'est plus compliqué, là, on tombe dans toutes les dédales. Il y a du monde aussi au départ qui y croit pas, là, comme quand il y en a un qui dit j'ai vu un hippopotame dans la rivière, le monde rit de lui un peu. En tout cas, il y a plein de situations drôles comme ça là, qui Ouais. Et pourtant, le plus troublant, c'est que tout ça, je dirais, tu sais, est basé sur une anecdote qui ça existe encore. La réalité existe encore. Il y a encore des hippopotames en Colombie à cause de Pablo Escobar.
Ouais. C'est un film colombien, celui-là?
Dominicain. Il va falloir que je lise son nom, là, de Nelson Carlo de los Santos Arias. Ouais.
quand même. Prémisse très intéressante. J'espère effectivement qu'on sera capable de le trouver un jour, ce film-là. Ouais. Puis je disais qu'il y avait peut-être, c'était peut-être la première partie d'un autre film, on sait pas.
Oui, c'est ça. J'aimerais ça voir. Oui, c'est ça. Dans le titre, c'est écrit partie 1, fait qu'on espère qu'il y a une partie 2. Là, c'est de savoir quand est-ce que ça va sortir. Est-ce que ça va sortir ou juste? Ça, je suis pas assez au courant. J'imagine que ça dépend des recettes que le film va faire, mais j'ai pas l'impression que ça va sortir ici. C'est que...
Okay. Ils vont peut-être faire comme avec les Beatles, faire un film par hippopotame importé. On va suivre les trois autres. Tu veux parler aussi d'un troisième film qui était... Est-ce que c'était le film de clôture du festival?
Oui, le film de clôture, Miséricorde. Puis ça, c'est un film probablement qu'on va avoir plus de facilité à retrouver dans nos salles dans quelques mois, parce qu'on a une bonne relation quand même avec la France. Puis c'est un film d'Alain Guiraudy. Il a déjà sa propre notoriété à lui, là. Puis c'est un film, moi, que j'attendais quand même pas mal, là, parce que on avait eu des très bons retours de la presse à Cannes, même si ça avait rien gagné, puis c'était pas dans la sélection officielle, mais ça avait quand même fait jaser un peu. Et je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que c'est mon premier film d'Alain Guiraudy aussi. Mais moi, ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que c'est un film assez... C'est un film populaire, là. Je dirais que tout le monde peut le regarder, puis sans trop être dépaysé, mais je vais raconter l'histoire brièvement quand même. Donc, y a un jeune homme qui s'en... Après la mort d'un de ses amis, il s'en va dans un village rural pour aider une boulangère qui est une de ses amies aussi, là. Puis, plutôt la mère d'un de ses amis d'enfance, là. Et là-bas, il va comme y avoir toutes sortes de conflits, puis sans spoiler, mais ça va déraper puis devenir plutôt une enquête de meurtre. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'on dirait qu'Alain Guiraudy, il a pris des histoires qui viennent de films Hallmark, là. Je dis, le change les genres, mais je veux dire, dans les films Hallmark, t'as souvent la fille qui part de la ville, qui s'en va aider, tu sais, la boulangère dans son village rural.
D'un pays inventé. Puis...
Oui, puis ça fait aussi penser, mettons, à des épisodes d'Inspecteur Barnabé, où, tu sais, c'est une série télé, là, où les gens essaient de résoudre des enquêtes dans un petit village, demandent à quel... Tu sais, dans le comté d'Inspecteur Barnabé, il y en a des crimes pour la population qui est là-bas, en tout cas. Ouais. Mais moi, je commencerai à me poser des questions. Je pense que j'irai travailler ailleurs. Parce que le film il part de concepts plutôt populaires comme ça. Puis il va en ajouter aussi. Là, il y a une partie très drôle en lien avec le prêtre de ce village-là qui moque un peu la religion. La salle était vraiment genre... On a eu souvent des fous rires. Mais ce que je trouve plus audacieux, c'est... Après ça, d'avoir apporté, plus, mettons, rebelle, c'est d'avoir apporté des dimensions, je sais pas comment dire, mais morales à cette histoire-là. C'est de se demander, tu sais, un peu comme dans les films de Bresson, dans les livres de Dostoïevski, genre. Si on est capable de se pardonner un meurtre, c'est tiré par les cheveux, puis je pense pas qu'Alain Guiraudy prend pas ses réflexions au sérieux lui-même, mais c'est très drôle de se demander, parce que c'est de se demander ça, puis c'est de là dont vient le titre Miséricorde, parce que je veux pas trop en dévoiler, mais la fin qui est très abrupte, là, qui finit pas, on n'a pas de résolution à l'enquête, elle advient quand ce personnage-là est capable de se pardonner, plutôt quand le personnage décide de se pardonner à lui-même pour son crime, même si c'est peut-être pas totalement justifié, là, je sais pas comment le dire, mais c'est pas un, c'est pas quelque chose. Je pense que les gens vont voir ça, puis pas se dire que. Ils vont être laissés un peu sur leur faim. Sûrement que le personnage aurait dû être jugé. À un moment donné, il va réussir à se faire convaincre par un autre que non, c'est pas si grave que ça ton crime. Puis, le film se termine là-dessus. C'est un peu. Ça chamboule un peu le déroulement narratif traditionnel d'un ouais. whodunit ou d'un film policier. Puis, je trouvais ça très drôle. Puis, en général, il faut encore mettre l'emphase là-dessus. Mais c'est un film. C'est un film populaire, là. C'est un film hilarant. Les gens, ils vont pas. Faut pas aller là et se dire qu'on va avoir une. Il y a une réflexion philosophique à y avoir, mais on va y. Il y a manière de voir ce film. Oui, c'est ça, il y a plusieurs niveaux. Puis, un dernier commentaire que je voulais faire sur ce film-là, moi, je trouvais ça facile parce que le film, peut-être que les cinéphiles vont s'en rendre compte, mais il est légèrement basé sur Théorème de Pasolini, là. Dans l'idée que, mettons, un étranger arrive dans un endroit puis chamboule un peu tous les rôles préétablis dans la société, etc. Puis, ce qui me fascinait, c'est de voir le nouvel impact que ce film-là de Pasolini a, parce qu'il y a un autre film que j'ai pas vu malheureusement, mais dont j'ai vu le trailer, un film de Bruce Labrousse qui s'appelle The Visitor. Puis c'est un peu... C'est très différent dans ce film de Miséricorde, mais l'idée du visiteur qui change les conventions sociales revient. C'est juste que ce film-là est plus, mettons, orienté. C'est plus une relecture queer de Théorème que Miséricorde. Mm-hmm. Ben, Théorème avait déjà cette dimension-là, mais là, je pense que Bruce Labrousse a voulu pousser encore le bouton plus loin. Parce que je trouve ça drôle, tu sais, la reconnaître, parce qu'on sait que le film de Pasolini le plus connu et le plus populaire, c'est Salo. Mais de voir qu'un film comme Théorème, qui est peut-être ton deuxième le plus populaire, ben commence à avoir de l'importance dans des festivals, puis ça commence à inspirer des réalisateurs. Je trouve ça... Peut-être même d'avoir une influence plus, mettons, présente que Salo. Parce que Salo, on en parle plus pour son aspect choc que pour peut-être son influence. Ben, en tout cas, ça, je trouve ça intéressant.
Ouais. Ben, écoute, très bon récapitulatif du FNC. En conclusion, tu voulais mettre aussi quelques films sur notre radar pour la suite, là.
Ouais, bon, je vais y aller très vite. Il y a tout d'abord le film Bug and Clock de Ben Rivers, qui lui est un cinéaste expérimental. Puis c'est un film, grosso modo, sur quelqu'un qui habite tout seul dans la forêt. C'est pas le premier film qu'il fait sur cette personne-là. C'est vraiment difficile à décrire parce qu'il n'y a pas d'histoire à proprement parler, mais c'est une œuvre très poétique, puis je la recommande pour ça. Ensuite, il y a deux films vietnamiens, puis on assiste un peu à travers les festivals, comme une renaissance, ils appellent ça le nouveau cinéma vietnamien. Puis là, on a deux films, un qui s'appelle Viet An Nam et un qui s'appelle Kulai Never Cries. Tous les deux dans la compétition officielle, que j'ai trouvé très intéressant. Ce qui est dommage, c'est que ces films-là, ils sont... Ben, Vietnam n'a pas été projeté au Vietnam parce qu'il n'est pas considéré comme assez patriotique. Puis Kulai Never Cries, ils ont dû le censurer au Vietnam pour les mêmes raisons. C'est un peu dommage parce que il y a vraiment des belles œuvres d'art... qui ont du succès international, qui sortent de ce pays-là, mais ils les reconnaissent pas peut-être à leur juste titre. Mais des fois, il y a aussi le film de Payal Kapadia que j'ai pas vu, mais c'est juste pour en parler un peu, qui s'appelle All We Imagine As Light, là, qui a eu beaucoup de succès, qui a gagné le Grand Prix à Cannes, mais l'Inde n'a pas voulu le choisir comme pour représenter officiellement le pays aux Oscars parce que c'est pas le type de film auquel ils sont habitués. Ils ont voulu partir dans une comédie plus populaire. Donc des fois c'est dommage pour ça, mais on peut rien y faire à part leur donner de la reconnaissance à travers des festivals ici, puis leur montrer que bon, ils sont les bienvenus, je sais pas, s'ils sont pas les bienvenus dans leur pays, ben ils sont les bienvenus à Montréal ou à Cannes. Bon. Mm-hmm. Mais c'est ça. Je pense que les gens peuvent aller surveiller tous ces films-là. Je ne sais pas s'ils vont sortir au Québec, mais des fois, après ça, ils peuvent sortir directement sur les sites de streaming comme Canopy ou Criterion Channel. Ils ont, ils ont une section pour les films plus récents, contemporains. Là. Fait que peut-être ouais. de garder l'œil là-dessus. Là.
Vietnam, peut-être effectivement que ça va sortir. J'ai lu justement un article là-dessus dans les cahiers du cinéma. Donc, ça, il y a un petit buzz autour de celui-là. On va espérer le voir un jour sur nos écrans, pas juste en sortie limitée. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup, Maxence. Écoute, très beau récapitulatif. Merci de l'avoir couvert pour nous à Ciné Histoire. On se reparle dans 2 semaines. Merci beaucoup, Maxence.
Merci à toi. Bye. Bonne journée.
Un jour je vais faire un film, j'ai déjà écrit le script et dans le scénario il n'y a pas du tout de tragédie.
Cette semaine, on explore le plus récent numéro des Cahiers du cinéma, soit le numéro 812 qui est daté de septembre 2024. Évidemment, ce qui va prendre une grande place dans cette édition-là, ben, c'est Megalopolis, la sortie du nouveau film de Francis Ford Coppola. Il y a 4 articles là, qui dressent un tour d'horizon un peu de ce film-là qui... Ben, on le sait, là, on a d'ailleurs fait une émission spéciale sur Francis Ford Coppola. Ben, c'est un film qui, évidemment, les Cahiers ont beaucoup apprécié. Ils aiment beaucoup, habituellement, l'œuvre de Coppola. Ils l'ont souvent mis dans ses top 10, dans leur top 10 annuel. Donc là, on a quatre articles, donc notamment un par le rédacteur en chef, Marcos Uzal. Un petit éditorial, un petit tour d'horizon sur ce film-là là, qui s'appelle 10 000 esquisses, qui parle un peu justement du film et puis des problèmes de production et tout. On a aussi également une entrevue donc avec Francis Ford Coppola. On a un petit texte aussi, une critique en fait du film, ainsi que un portrait sur Adam Driver et puis son attrait charismatique malgré son physique un peu atypique, disons. Donc, c'est vraiment l'événement principal de ce cahier du cinéma-là. Et d'ailleurs, Coppola est en première page. Sinon, ben, on a une petite rétrospective un peu sur la réalisatrice et l'actrice Sophie Filière, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Donc, une petite critique de son plus récent film, donc qui est là, je crois. Non, Ma vie, ma gueule, pardon, de Sophie Filière. Et puis, justement, une espèce de rétrospective qui est faite par Hervé Aubron, qui dresse plusieurs parallèles avec notamment Alice au Pays des Merveilles, puis des personnages féminins, justement, un peu atypiques. Donc, et puis ces effets de miroir-là. Bref, très intéressant si vous connaissez, si vous ne connaissez pas la réalisatrice Sophie Filière, là, qui nous a quittés il y a quelques mois. Sinon, ben, au niveau des critiques des films, ben, on ratisse quand même assez large. On est dans l'après-Cannes, si on veut. Donc, il y a certains films qui commencent à faire leur sortie en France et qui vont faire leur sortie probablement cet automne au début de l'hiver ici au Québec. Donc, Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rassouloff, Les léopards des neiges de Pema Tseden, À son image, lui qui est peut-être un peu plus niché, mais de Thierry de Peretti, Trap de M. Night Shyamalan. D'ailleurs, il y a même une entrevue réalisée avec le réalisateur américain. Vietnam de Minh Ki Truong, Vive, mourir, renaître de Gaël Morel, Dahomey de Mati Diop, qui d'ailleurs est au FNC, le film étant en projection au FNC en ce moment. Et puis, des réflexions sur plein d'autres films. Là, on passe tant de Alien Romulus à... c'est ça. On ratisse quand même assez large, là, je crois. Les Barbares, L'effet Bahamas, Emmanuel, aussi le nouveau film d'Audrey Diwan, qui n'est pas super bien reçu. Voilà, des films qui... vont probablement pas faire leur chemin jusqu'ici. Il y a quand même un article intéressant sur Hitman de Richard Linklater. D'ailleurs, je vais en faire la critique bientôt. C'est ça. Donc, sinon, ben, on fait aussi un petit tour d'horizon des festivals estivaux qui ont eu lieu, notamment Il Cinema Ritrovato, qui est un festival en fait de restauration de films. Sinon, il y a Fermat La Rochelle, FID Marseille, Carlo Vivari. Donc, un petit topo sur chacun de ces festivals-là. On fait aussi un hommage à Gina Rowlands et à Bill Viola, deux regrettés du cinéma. On fait aussi un gros topo en fait sur un hommage à Alain Delon, la star impossible, comme le dit Nicolas Barizet, une espèce de d'acteurs. On en a fait une rétrospective, nous aussi, à Cinéhistoire, mais c'est ça, un peu sur son profil atypique qui n'était jamais vraiment trop de son temps, mais qui n'a jamais non plus réussi à faire sa place au-delà des années 70 dans le cinéma français ou même le cinéma international. Donc, trois articles qui viennent compléter un peu cet hommage-là. Sinon, ben, il y a plusieurs aussi, un petit topo sur les DVD, les sorties ou ressorties et les livres plus récents. Bon, du lot, il y a peut-être Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo là, qui est assez intéressant. Une ressortie en salle. Ici, je ne sais pas si on aura le droit à une sortie physique ou une sortie en salle. Dalton Trumbo là, qui était... C'est sa seule réalisation, en fait. Là. Il est un scénariste surtout qui faisait partie des Hollywood 10, là, ceux qui ont été blacklistés pendant justement le maccartisme. Donc, son film, sa réalisation futuriste a maintenant justement une nouvelle restauration. Il y a eu un roman aussi, un livre en fait sur Al Pacino qui s'appelle Le Grand Jeu qui est sorti. Et on y parle aussi de Dead for a Dollar de Walter Hill qui était sorti, je crois, ici au Québec il y a quelques mois, mais qui n'a peut-être pas fait autant parler qu'il aurait dû. Et sinon, ben, le dernier topo, ben, c'est Cinéma Retrouvé. En fait, c'est une espèce de tour d'horizon de la carrière de Frédéric Wiseman. Donc, deux articles qui viennent compléter ça. Vraiment très intéressant si vous ne connaissez pas Frédéric Wiseman, cinéaste expérimental qui a beaucoup travaillé avec les animaux, mais les animaux dans le but d'explorer un peu la nature humaine, sinon du cinéma très engagé aussi. Donc, très intéressant comme nouvelle édition des Cahiers du cinéma. Prochainement, je vais vous revenir aussi avec un petit topo sur la revue Séquence, donc que je suis en train d'éplucher en ce moment. Donc, voilà, les Cahiers du cinéma sont disponibles ici à Sherbrooke. Ils sont disponibles à la bibliothèque du campus principal, mais sont aussi disponibles à la bibliothèque Eva Sénécal. Donc, vous pouvez aller les louer. Ou sinon, vous les procurez là, dans vos distributeurs habituels. Donc voilà, c'était Les Cahiers du cinéma, septembre 2024, numéro 812.
Un jour, je vais faire un film, il ne sera pas long. Quelques petits moments, collés les uns aux autres sans narration.
C'est déjà tout pour cette édition de Ciné Histoire. J'aimerais remercier tout le monde qui est passé nous voir, notamment Maxime Bonneville et Alex Tardif. Merci beaucoup pour ce petit passage et ce topo sur les princesses. Merci beaucoup à Océane Roux. Son documentaire là, sera disponible demain sur tout.tv et sur ici.télé. Ici Télé, en fait, à 22h30 demain. Et sinon, merci beaucoup à Maxence Gagné donc, pour son petit tour d'horizon. On se dit peut-être à la semaine prochaine, c'est pas certain, il y a un certain festival, Semaine de la radio, qui aura lieu du 4 au 8 novembre prochain. Donc, je serai très pris. C'est possible qu'on fasse une émission spéciale pendant le Radioton que CFAC organise, mais ça reste à déterminer. Bref, à voir. Sinon, on se retrouve au plus tard dans deux semaines. Donc, merci d'avoir été à l'écoute de Ciné Histoire. On s'en va en musique et on se dit à bientôt.